poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais, voici des chrétiens sous la Révolution française.
Mademoiselle de Lamoureux est bouleversée. Son confesseur vient de sortir de chez elle dans la plus grande discrétion. Lui, l'abbé qu'elle a connu depuis sa plus tendre enfance, celui qui l'a baptisé et accompagné depuis tant d'années, un être si doux, si bon, est aujourd'hui un hors-la-loi. Un recherché, un traqué. Elle n'en revient pas et sent la colère monter en elle. Non, ce n'est pas possible, il faut agir. Prendre le pouvoir, soit, mais vouloir régenter l'Église, non, non, non et non. Ce qui a poussé Marie-Thérèse à réagir, c'est de voir ses amis prêtres interdits par ces petits bleus qui voudraient contraindre le clergé à jurer fidélité à la constitution civile du clergé, ce texte inique qu'ils ont voté dans leur soi-disant assemblée. L'archevêque, Monseigneur Champion de Cissé, a déjà décidé de s'exiler, et dans le diocèse, les prêtres se partagent en deux camps, celui des jureurs et celui des réfractaires que l'on pourchasse. Être emprisonné ou se cacher, voilà à quoi ils sont réduits. Mais jamais ils abdiqueront. La République n'est pas le premier régime à martyriser l'Église. Et elle, Marie-Thérèse de Lamoureux, compte bien entrer dans la bataille. Mademoiselle de Lamoureux est alors âgée de 36 ans. Elle, qui avait voulu entrer au couvent, qui n'y avait pas été acceptée, voit dans les événements dramatiques que vivent les catholiques, et surtout les prêtres clandestins, l'occasion de se mettre au service de sa religion. Pour tromper l'ennemi, elle jouera la révolutionnaire. « Marie, allez me chercher une paire de ciseaux et prêtez-moi votre bonnet. Je m'en vais me mettre à la mode de Bordeaux. » En jupon de coton, fichue nouée sur la poitrine, les cheveux courts, serrés, sous son bonnet, riante, elle hante les bureaux du comité de surveillance. À grand renfort de sourires et de flatteries, elle inspire confiance aux Jacobins, prend connaissance de leurs projets, reçoit des confidences et en informe ses amis. Dans son rôle d'espionne, Mademoiselle de Lamoureux trompe bien le petit monde révolutionnaire girondin. Grâce aux renseignements qu'elle glane ici et là, elle peut sauver les têtes de ses amis recherchés, les prévenant à temps des rafles et des complots. Mais c'est avant tout pour l'Église et pour les fidèles démunis que Marie-Thérèse se bat. Transportant au péril de sa vie, livres pieux et objets liturgiques, elle permet aux prêtres réfractaires de célébrer leurs sacrements pour leurs ouailles qui ne veulent pas accepter les nouveaux vicaires envoyés par la gueuse. Un jour, elle apprend qu'une bonne chrétienne, mariée à un révolutionnaire, va mourir sans avoir reçu l'extrême onction. Elle accompagne le prêtre qui porte le Saint-Sacrement, serrant sous sa propre mante les saintes huiles, l'étole et le surplis. Elle introduit le faux médecin, interpelle le mari et parvient à l'éloigner pendant que le prêtre administre les derniers sacrements à la malade. « Citoyen, ne manque pas de lui bien faire prendre le remède, exactement » lance-t-elle au mari en partant. Ce qu'il promet. Nous retrouvons Mademoiselle de Lamoureux. Avec passion, elle remplit sa tâche, ô combien délicate, de messager secret, d'espionne. Avec grande habileté, manifestant sang-froid et dévouement, elle risque sa vie au milieu des ennemis. Elle rejoint l'association secrète des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie, qui offre un soutien spirituel à ceux qui sont entrés dans la clandestinité. L'adoration quotidienne, la prière et la pénitence pour les crimes commis, et le salut de leurs âmes, leur sont d'un profond secours dans leur lutte pour Dieu et le roi. Mais en avril 1794, elle tombe sous le coup des décrets qui frappent la noblesse. Mademoiselle de Lamoureux doit quitter Bordeaux et se réfugie dans la propriété familiale du Pian-Médoc. Vivant dans une grande précarité matérielle et une insécurité complète, elle ne renonce pas pour autant à franchir régulièrement les 4 ou 5 lieues qui la séparent de Bordeaux, à la merci des révolutionnaires et des loups qui hantent la lande désolée. Mais même si parfois elle a peur, elle ne renonce jamais à se rendre utile. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1794, elle pénètre dans la cellule du père Martinien Panetier, grand carme, chef réfractaire de la première heure, pour recueillir ses consignes avant sa comparution devant le tribunal révolutionnaire. De façon habituelle, elle se met au service des 600 habitants de son village, suppléant l'absence du curé légitime. Elle ouvre l'oratoire de sa maison aux réfractaires, assure l'enseignement du catéchisme, réunit femmes et filles pour prier, visite et encourage les malades. Si la visite d'un prêtre est impossible, elle leur fait recevoir en esprit les sacrements, goûtant des consolations inexprimables à cette tâche. Les paysans en viennent à la considérer comme leur chef spirituel et longtemps après la Révolution, ils continueront de lui manifester cette totale confiance. À plusieurs reprises, Mademoiselle de Lamoureux est sur le point d'être arrêtée, mais chaque fois, elle réussit à désarmer ses adversaires par sa douceur et ses bons mots. Un dimanche soir, Alors qu'elle était venue réciter son chapelet près d'un petit calvaire, elle vit venir à elle deux hommes mal vêtus et de mine passablement farouche. Elle fut saisie de frayeur au fond de l'âme, mais prenant aussitôt cet air gai et bienveillant qui lui était familier, « Bonjour, citoyens !» leur dit-elle la première. « Soyez les bienvenus. Vous me paraissez fatigués. J'ai du bon vin à vous offrir. Venez vous reposer chez moi. » Ces deux hommes, interdits par un accueil aussi cordial, se regardèrent et lui dirent « Ma foi, citoyenne, nous acceptons d'autant plus volontiers que nous allions chez toi. C'est bien, mes braves !» Et leur tendant la main, elle les introduisit chez elle. Là, elle leur fit servir à manger et à boire. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils se dirent quelque chose à l'oreille et l'un d'eux, adressant la parole à mademoiselle de Lamourousse, lui dit « Citoyenne, tu ne sais pas pourquoi nous sommes ici ?»« Non, c'est peut-être que vous cherchez de l'ouvrage. » « Ma pauvre femme » reprit-il en riant. « Tiens, lis cela !» Et il lui montra son signalement avec l'ordre de l'arrêter, qui était joint. « Oh, c'est cela !» dit mademoiselle de Lamourousse sans paraître émue. « Eh bien, nous partirons demain matin !»« Non !» reprirent ces deux hommes. « Tu es trop bonne. Ce serait dommage de te faire du mal. Nous allons dire que nous ne t'avons pas trouvé chez toi. » Et ils partirent en lui serrant la main. En 1801, quand le Concordat permet aux catholiques de pratiquer à nouveau leur religion ouvertement et de fonder des associations charitables confessionnelles, mademoiselle de Lamourousse, attentive aux besoins suscités par les bouleversements de la société, fonde l'œuvre de la miséricorde qu'elle dirigera en bonne mère jusqu'à sa mort. Elle trouvera à ses côtés, pour la conseiller, l'abbé Guillaume-Joseph Chaminade, son directeur de conscience depuis 1794. L'œuvre de miséricorde se consacrera au relèvement moral des femmes que la misère a contraintes à la prostitution. Les règles de l'œuvre reposent sur l'esprit de liberté. Les repentis viennent librement et peuvent repartir librement. Dans les tâches les plus quotidiennes, laver, repasser, coudre, raccommoder, ranger, frotter, etc., elle s'attache à éduquer ses filles à la vertu et à leur rendre ainsi leur dignité par le travail. Infirme depuis longtemps, Marie-Thérèse de Lamourousse s'éteindra à 82 ans, le 14 septembre 1836.